Jeanne d'Arc. Les enfants, maintenant que vous savez lire, vous pouvez aller chercher un petit livre dans la bibliothèque pour l'emmener chez vous. Vous le ramènerez quand vous l'aurez lu. La gentille maîtresse de CP nous lança par ces termes à l'assaut du meuble long et bas, où toutes sortes d'ouvrages vivants et colorés nous attendaient, plus attrayants les uns que les autres. Elle ne se doutait pas à quel point elle allait déterminer un changement majeur dans mon existence. Mes yeux tombèrent sur un livre assez avare en illustrations, contrairement aux autres, et qui portait le nom de Jeanne d'Arc dans le titre. Jeanne d'Arc. Cela me rappelait quelque chose. Oui, c'est la jeune fille dont Mémé Valérie m'a parlé. Cette fille qui a été brûlée par les Anglais après avoir fait la guerre au milieu des hommes. Je revoyais la statue de plâtre du salon de ma grand-mère, haute d'une quarantaine de centimètres, où la pucelle d'Orléans est représentée en armure, avec son étendard, le visage extasié. Avide d'en savoir plus, je m'emparai du livre et le dévorai d'un trait. On pourrait s'imaginer que ce sont les victoires militaires de Jeanne qui m'ont impressionné. Une certaine iconographie, du style Valkyrie furibonde et plantureuse à la Wagner. Ou encore quelques côtés clinquants. Pas du tout. Deux choses retardent mon attention. Ses vertus hors du commun et sa relation à Dieu impliquant la question des miracles. En matière de vertus, mot que j'ignorais pourtant alors, elle me rendait ahuri par sa façon de réagir unique. Quel équilibre entre l'humilité et l'assurance, entre la sainte audace et la remise en question de soi, entre l'humour et la gravité, entre la force et la faiblesse, entre une intelligence très lucide et la simplicité d'une illettrée, entre le bon sens terrestre le plus concret et la prise en compte des choses invisibles de la vie mystique. Quelle maîtrise de soi dans les paroles, la nourriture, la boisson. Quelle aisance avec les grands de ce monde qu'elle n'hésite pas à corriger fraternellement. Et quelle compassion émue et concrète envers les pauvres, les malades et les souffrants. Quelle magnanimité aussi. Comment ? Voilà une jeune fille qui pardonne à son juge et lui parle poliment, qui lui demande même de l'entendre en confession. Pourtant, terriblement lucide sur lui, elle savait bien que cet être déloyal avait programmé dès le début son supplice. Voilà une guerrière qui descend de cheval pour tenir la tête d'un ennemi blessé et appeler pour lui un prêtre. Voilà une sorte de général victorieux qui, après sa victoire, arpente le champ de bataille et pleure sur les morts, même ceux de l'autre camp. Stupéfiant. Si ce n'était pas attesté par de nombreux témoins ou par des documents sérieux, on n'y croirait pas. Fille au grand cœur, fille de Dieu, la surnommaient ses voix. J'étais très étonné aussi de voir à quel point l'Eucharistie était importante pour elle, vitale, objet d'un désir passionnel, amoureux pour tout dire. Autour de moi, et lors des quelques messes auxquelles j'avais assisté, c'est plutôt le sentiment contraire qui s'était imposé à moi. Je voyais des baptisés mettre Dieu à la dernière place de leurs préoccupations, assister à la messe en guettant l'instant où ils pourraient se précipiter dehors, parler et rire dans les églises comme au marché, bref, traiter en un mot l'hostie consacrée comme si c'était un bout de pain quelconque. Je n'avais pas l'impression qu'ils auraient beaucoup sangloté si on les en avait privés. Peut-être, à la limite, leur vanité aurait-elle été blessée d'être ainsi mise à part d'un groupe, mais ils auraient eu le même sentiment en étant mis sur la touche d'un match de foot. Je me demandais ce qui pouvait motiver une telle différence. L'hostie consacrée est-elle un pain ordinaire et insipide? Un symbole uniquement? Ou véritablement le corps du Christ, comme le croyait Jeanne? Quant aux anges et aux saints du ciel, je ne les voyais pas, mais Jeanne disait les voir et converser avec eux. Et cet univers avait l'air fascinant et incomparablement aimable. Comment savoir ce qui était vrai dans l'affaire? Elle ne pensait pas mentir, assurément. Mais peut-être que cela relevait de la maladie mentale, comme certains verront des éléphants roses. Je doutais toutefois que ceux qui voient des éléphants roses puissent s'imposer et se faire respecter comme elle à une armée de métiers dans un contact quotidien et sur le terrain où la vraie nature des personnes se trahit très vite. Réussir comme elle où tout le monde avait échoué et, moins encore, arriver à la cheville d'une seule de ses vertus. restait à examiner les miracles. La résurrection de l'enfant mort sans baptême de Lannie m'interpellait particulièrement. Johann disait de lui lors du procès où ses juges eux-mêmes abordèrent le fait, « Il était noir comme ma cotte ». Certes, les jeunes filles de la ville avaient prié autour de lui avec l'héroïne, mais cette dernière elle-même attribuait le fait à la prière commune, mais cela du moins témoignait d'une prière qui avait l'air étrangement efficace. Une autre prière de Johann avait infléchi le sens du vent de façon favorable à ses projets lors de la délivrance d'Orléans. Hasard, peut-être, mais hasard étrange. Je voyais qu'à toute extrémité, elle recourait systématiquement à la prière et que cela lui donnait des forces neuves et des conseils avisés. « Mon conseil est meilleur que le vôtre », lancera-t-elle un jour crânement. Un conseil composé de saintes, dont la patronne des philosophes elle-même, et d'un archange venu exprès, est assurément qualitativement supérieur à un conseil de ministre ou de militaire. Ses prophéties sur la délivrance d'Orléans par elle-même, et le couronnement de Charles VII à Reims, s'étaient réalisées malgré tous les ricanements incrédules et les cabales. La plus stupéfiante de ses prédictions est sans doute celle consignée en 1431 par ses ennemis dans son propre procès. Avant 7 ans, les Anglais perdront plus grand gage qu'ils n'ont perdu avec Orléans. Or, moins de 7 ans plus tard, en 1437, les Anglais devaient perdre la ville de Paris. À côté de cela, des zones d'ombre subsistaient où la jeune fille attendait et espérait vainement. Elle supposa longtemps qu'elle serait délivrée par ses amis et échapperait à la peine capitale. Elle espérait s'évader et en prit plusieurs fois les moyens. Elle espérait bien réussir au siège de Compiègne et à celui de Paris. Sinon, pourquoi aurait-elle tenté l'aventure? Je voyais qu'elle n'avait pas de réponse à tout et que ses révélations étaient très partielles. Fasciné par elle, je la dessinais et m'amusais à jouer son rôle en récréation. Les garçons étaient classés par moi à leur insu dans la catégorie des Anglais. C'était eux, en effet, qui venaient nous agresser en perturbant la tranquillité de nos jeux. Me mettant d'office à la tête des filles, je contre-attaquais avec mon armée. Mais les filles, moins entraînées que les armagnacs de Johann, s'enfuyaient en poussant des cris perçants dès que les garçons faisaient volte-face et je me retrouvais seul contre tous. Plus sérieusement, je la prenais comme modèle de pureté. Sa prudence m'inspirait face à quelques garçons vicieux qui passaient leur récréation à essayer de soulever les jupes des filles ou plus. On peut trouver plus mauvais modèle, n'est-ce pas? Mon frère Christian naquit le 11 novembre 1974. Déjà âgé de 7 ans et demi, j'avais escompté jouer à la petite maman avec ce bébé tout rond aux grands yeux sceptiques, mais son caractère farouche m'obligea à réintégrer ma solitude d'ex-fille unique. Je me replongeais donc de plus belle dans la lecture et la méditation. Cela ne m'empêchait pas, bien sûr, toutes sortes de jeux et d'activités sportives avec des enfants de mon âge, des vacances en famille à la mer et des sorties de ski. Mais c'est une autre histoire qui romprait le fil de celle-ci. Depuis l'été 1974 au moins, je portais parfois une bague, vraisemblablement trouvée dans une pochette surprise. Dotée d'un gros chaton à pierre bleu clair, elle évoquait pour moi le ciel. C'était le signe secret de la nouvelle relation que la lecture de la vie de Johann avait tissé entre le Christ et moi. La sainte aussi avait sa bague, un anneau de laiton où le nom de Jésus était inscrit. Elle avait fait le vœu de virginité aussi longtemps qu'il plairait à Dieu. Consciente qu'il était trop tôt pour que je prononce un tel vœu, je me savais toutefois mise à part pour l'œuvre de Dieu. Et délibérément, je laissais souvent ma médaille de la Vierge bien en vue sur mon pull, me sentant appelé, en tant que baptisé, à agir en union avec le Christ. Des années plus tard, une autre bague, mais plus de pacotille cette fois, de couleur identique, sembla me tomber du ciel. En effet, une parente ayant trouvé par terre le bijou, pensa qu'il était dénué de valeur et me l'offrit. Il s'agissait d'une aigle marine montée sur un double jonc d'or qui l'enchâssait aux 4 angles. L'anneau était étroit, et comme dans les contes de fées, seul moi pouvais l'enfiler. Ce n'était étrangement pas une bague pour un doigt d'adulte. Plus tard, mon doigt ayant grossi autour, j'avais beaucoup de peine à le retirer. Par quel miracle quelqu'un avait-il pu perdre un bijou si resserré? Pourquoi la parente en question me l'avait-elle proposé de préférence à mes nombreuses cousines? En tout cas, à 12 ans déjà, j'avais perçu l'appel au Carmel à travers la vie de Thérèse d'Avila. Or, la parente en question s'appelait Marie-Thérèse. À travers elle, j'avais l'impression que la mère du Christ et les deux saintes Thérèse du Carmel me faisaient signe, non sans humour, dans une complicité secrète toute féminine. N'oublions pas que le nom réel de mon futur ordre tout marial est de la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel, et que les premiers ermites de cette communauté se nommaient Frères de la Vierge. Mais revenons à mes premières impressions d'enfance.